Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Djaïli Amadou Amal. Bonjour Djaïli Amadou Amal.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Djaïli Amadou Amal, vous êtes écrivaine camerounaise, lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020. Votre livre Les Impatientes s'inspire de votre propre histoire. Les Impatientes, ce sont 3 femmes, Ramla, Hindou et Safira, hein, c'est ça, Djaïli ?
Exactement.
Qui tentent d'échapper à leurs conditions. Et ce n'est pas par hasard qu'elles s'appellent Les Impatientes. C'est parce que, en foulfouldé, dans la langue peul, on dit tout le temps aux femmes patience, patience. Et comment on le dit alors ?
Mounial.
Mounial, mounial.
Mounial, mais c'est pas que chez les peuls, en fait. Finalement, dans toute la zone du Sahel, c'est presque le même mot, mounial, pour nous. Mais ça peut être aussi mounial au Sénégal, mounousabari au Mali, etc. Mais c'est un conseil. Telle une injonction qui est donnée aux femmes à toutes les circonstances de leur vie.
C'est-à-dire patience,
accepte tout,
supporte.
Supporte, soumets-toi surtout sans te plaindre.
Alors Djaïli Amadou Amal, vous avez choisi comme journée particulière le 1er juillet 1993. Ce jour-là, on vous mariait de force.
Épousées contre leur gré, avec ou sans la complicité des parents, les filles dans l'extrême nord du Cameroun sont massivement victimes du mariage précoce et forcé. D'après le réseau d'ONG impliqué dans la lutte contre cette pratique, elle toucherait jusqu'à une fille sur deux. Cet après-midi-là, à Yagoua, aucune victime n'acceptera de témoigner. Accompagnée du pasteur Amadou Jacob Bello, collaborateur du service civil pour la paix, nous essuierons systématiquement un refus. Pasteur Bello.
Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de dénoncer une situation où on devait se taire. Parce que beaucoup de gens sont victimes de cette situation, mais non, ne veulent pas parler de ça. Donc, à cause de la crainte, de la tradition et autres, les gens trouvent cela comme un sujet tabou. Il y a plusieurs, c'est-à-dire, pensent que s'ils doivent exposer une telle situation, c'est faire honte à la famille, c'est faire honte à la tradition. Donc, par honte, plusieurs se taisent par honte, d'autres aussi par crainte.
C'était une archive de RFI, c'était un extrait du reportage de la journaliste Sarah Sacco, donc sur le mariage forcé dans le nord du Cameroun. Djaïli Amadou Amal, vous aviez quel âge, vous, le jour de votre mariage ?
Eh bien, ce jour-là, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais été fiancée à 14 ans, mais à quelqu'un d'autre, et je ne m'étais pas rendu compte finalement du poids, parce que c'était un jeune homme que j'aimais bien. J'étais très amie avec ses sœurs et j'étais très jeune. Je ne savais pas l'implication et de toutes les façons qu'on ait organisé ces fiançailles n'impliquait rien et ne m'obligeait à rien. Donc, c'était pas un problème. Mais quand cet homme de 55 ans, une autorité politique de la ville, décide de faire de moi son épouse, brise ses fiançailles qui ont été scellées et arrive malgré le fait que j'ai toujours dit non et que finalement même mes parents, mon père, ma mère n'étaient pas si d'accord que ça. Donc cette journée du 1er juillet 1993 est une journée évidemment qui a bouleversé toute ma vie.
C'est une journée cauchemardesque. Vous l'avez vécu comment ? Comme dans un état de sidération, Djaïli Amadou Amal ?
Eh bien, jusqu'au dernier moment, je n'ai pas voulu vraiment y croire. On organisait le mariage, je voyais bien qu'on était en train de faire les préparatifs. Et tant que personne ne me demandait rien, je demandais rien non plus. J'ai marché dans la maison, je voyais des femmes en train de faire des gâteaux, en train de préparer le trousseau. Mais je m'étais finalement, c'est comme si j'étais sortie de mon corps en fait. C'est comme si je regardais une scène de l'extérieur qui ne me regardait vraiment pas. Et même ce matin, le matin du mariage où ils font la cérémonie religieuse, où on ne me demande pas finalement mon avis comme le voudrait normalement même la religion. Personne ne me demande rien, je demande rien. Je vois beaucoup d'hommes qui arrivent, qui font la prière. Et pour mieux les observer, je suis grimpée sur un arbre. C'est bien ça. Je suis grimpée sur un arbre et puis j'ai regardé. C'était amusant plutôt. Il y avait beaucoup de monde. Mais je n'avais pas fait le lien avec ce qui m'arrivait vraiment.
Mais vous le connaissiez, votre mari, vous l'aviez rencontré, cet homme, donc c'était le maire de votre ville, un homme de 50 ans, déjà marié.
Déjà marié, qui a des enfants plus âgés que moi, évidemment, à l'époque.
Vous l'aviez rencontré ?
Je l'ai rencontré deux fois. Je l'ai rencontré pour la première fois le 20 mai. Bon, ça, disons après le 20 mai, parce que lui, il m'a aperçu le 20 mai. C'est-à-dire le jour de la fête nationale de notre pays où tous les élèves défilaient devant les autorités de la ville. Donc, c'est là qu'il m'a aperçu.
Il vous a trouvé belle ?
Oui. Et qu'il a décidé de faire de moi son épouse. Donc, quelques jours plus tard, il a insisté. Mes parents ont refusé qu'il me rencontre. J'ai refusé, évidemment. Mais après, il est passé par toutes les personnes à qui il a fait une pression énorme. Et il a joué sur les traditions, sur la notion de ce que nous appelons le code d'honneur, donc le poulaku. Mes oncles ont obligé mon père. Et moi, certains oncles ont obligé ma mère. Et ma mère, pour leur faire plaisir, m'a obligée à le voir. Et comme je ne pouvais pas dire vraiment non, j'ai enlevé mes lunettes. Je suis très myope. Donc... comme j'avais pas mes lunettes, je ne pouvais rien voir. Et donc, j'ai rien vu. Il est venu, il a parlé. J'ai pas dit un mot et je l'ai pas vu. Et la deuxième fois, il est revenu. Il y avait tout le monde à la maison, je l'ai ignoré. Et la troisième fois, c'était mon mariage.
Quand est-ce que vous avez compris qu'on vous mariait ? Jaïli Amadou Amal, quand est-ce que vous avez compris que c'était votre mariage ?
Eh bien, donc, comme je le disais, j'avais l'impression d'assister à une scène qui ne me concernait pas. Déjà, toute la matinée, il y avait une fête qui concernait plus les hommes, parce que les femmes étaient à l'intérieur et qu'elles faisaient la cuisine. Et ensuite, ma mère m'a demandé d'aller chez une de mes tantes qui devait m'habiller. Eh bien, je suis allée. Elles m'ont mis une robe. Normalement, on devait me mettre le henné, mais j'ai refusé. Comme j'étais un peu sur les nerfs, quand même, on n'insistait pas trop. Et puis, je suis revenue à la maison. Je voyais bien qu'il y avait plein de cadeaux et tout ça. Jusque-là, je ne réalisais pas. Et puis, je suis restée avec ma mère, avec les femmes, avec mes tantes, etc. Et puis j'ai entendu un mot, une phrase. La voiture pour prendre la mariée est arrivée. Alors là, j'ai réalisé. Et ce que j'ai fait, c'est... Je me suis enfermée. Je me suis enfermée dans une chambre, tout simplement. Et j'ai refusé d'en sortir.
Mais on vous a quand même marié, Jaïli Amadou Amal. Mais pourtant, en 1993, Jaïli Amadou Amal, alors que vous viviez ça, il y avait Oumou Sangaré qui chantait. Et Oumou Sangaré, c'est une femme que vous aimez. C'est une grande chanteuse. Et c'est une grande chanteuse qui se bat pour la condition des femmes. Alors séchez vos larmes et puis on l'écoute.
Mais non, les mains, laissez-les à mal. Bamanyare sugu baromba male kawa bazesa amale wore wore bazesa male mitadi kaladona ma wore wore kaladona mala asanga bazenindo ikagelo masayala ake baga keneye Fishaewa Mitanga Tairi Kasro Tairi Fuakari Soro Tairi Smaila Soro Tairi Salama Soro Kakanga Bazeni Kala Amale Kakesh Puni Hala Nale Kaketa Ibasi Amale Itake Mani Ariewa Nale, ne nale, nale se wa nale se ya, ne na wa malide ipemba, nale se wa.
Nale, nale se ya, nale se ya, ne wa malide ipemba,
ya,
nale
ya,
se ya.
Ya.
Jaili Amadou Amal, vous aimez beaucoup cette chanson de Oumou Sangaré, donc qui est peu là, comme vous, et qui se bat pour le droit des femmes. De quoi parle cette chanson?
Eh bien, de la place de la femme, tout simplement. Oumou Sangaré, oui, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, qui défend nos codes d'honneur, mais qui est la voix des femmes.
Qui est la voix des femmes.
La voix qui dit aussi et qui raconte ce que vivent les femmes. Et qui se bat pour leurs conditions. Donc oui, c'est une femme que j'admire beaucoup.
Vous parliez tout à l'heure du code de l'honneur, le poule à coups, qui a fait que vos parents n'ont pas pu refuser ce mariage. C'est quoi exactement ce code de l'honneur? C'est un code de l'honneur peul?
Eh bien, c'est l'ensemble des valeurs qui régissent la vie en société. Un peul, dès son plus jeune âge, on lui inculque dans ses codes de valeur, cette manière de vivre, cet art de vivre, Paul. Le mounial, c'est-à-dire la patience. La patience, ça va dans tous les sens. La patience à tout ce qui est douleur physique, mais aussi à tout ce qui est douleur psychologique, morale. Le SMTND, c'est-à-dire la pudeur, la honte, finalement la honte d'avoir honte. Et le respect, une sorte de respect aussi envers soi-même, mais aussi envers les autres. Le netagou, c'est-à-dire le sens de l'honneur, la dignité. Et puis le hakilo, qui est aussi être intelligent, être posé, être rusé, être hypocrite finalement, parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs. Eh bien, une personne qui respecterait les codes d'honneur, peul, c'est-à-dire ce poulakou, et qui fait quelque chose qui est bien, qui est admirable pour la société, peu importe d'où elle vient, on dira d'elle, c'est une vraie peule. Et au contraire, un vrai peule qui ne respecterait pas ce code d'honneur, eh bien, on dira qu'il n'est pas peule.
Alors vous êtes une vraie peule, Jaili Amadou Amal. Donc le 1er juillet 1993, on vous mariait de force. Et je vous pensais traumatisée par cette nuit de noces. Enfin, je pense que vous l'êtes, mais vous m'avez dit que vous avez menacé votre mari pendant la nuit de noces.
Oui. Eh bien, oui. Après avoir fait le scandale de « je n'y vais pas » et qu'on m'ait mise de force dans la voiture et que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et qu'on m'ait amenée dans cette chambre conjugale, je pense que j'ai retrouvé et mon instinct de combativité et ma, comment dire, et mon, ma rébellion, parce que j'ai jeté un grand coup d'œil dans la chambre et j'ai trouvé une arme. Il y avait une sorte d'épée décorative dans un coin. Et bien, c'est la première, le premier objet que j'ai saisi. Et je lui ai dit, tu t'approches de moi, je te tue. Et après, comme je savais quand même, j'étais assez intelligente pour savoir que je n'aurais pas pu le tuer. Alors, je me suis enfermée dans la salle de bain. Et depuis ce jour-là, je suis passée maîtresse dans l'art de me cacher. J'ai dormi sous les fleurs. J'ai dormi dans un congélateur débranché. J'ai dormi sous une table à manger. J'ai dormi sous la voiture dans le garage. Chaque soir, je cherchais une nouvelle cachette. Et comme je corrompais aussi les gardiens, et tous les domestiques à la maison, eh bien, ils étaient presque devenus mes alliés. À partir de 16h ou 17h, je cherchais une cachette.
Et ce qui vous a permis de tenir le coup dans cette vie de cache-cache pour pas que votre mari vous attrape, Jaili Amadou Amal, c'est la lecture. C'est la lecture qui vous a permis de rester droite et de ne pas sombrer. Et particulièrement la lecture de romans historiques, de romans de Juliette Benzoni, la reine du roman historique.
Catherine Legoix a dû fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, massacré par le boucher Legoix. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais le hasard lui fait rencontrer Arnaud de Montsalvi. Ensemble, ils vivent le martyr de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate. Mais de retour à Montsalvi, Arnaud s'aperçoit qu'il est lépreux et doit s'enfermer dans une maladrerie, d'où il s'échappe une nuit pour gagner Compostelle. Sur le chemin, il est capturé et guéri par Zobéida, la sœur du calife de Grenade. Catherine, prévenue, les suit de loin. À Grenade, elle réussit à retrouver Arnaud et à le ramener en France avec l'aide de Jacques Coeur et d'Abou.
Jaili Amadou Amal, c'était un extrait du feuilleton télévisé Catherine, d'après l'œuvre de Juliette Benzoni. Donc ça, c'était une histoire d'amour au cœur de la guerre de Cent Ans. Jaili Amadou Amal, vous aimez le Moyen-Âge ou vous aimez les histoires d'amour?
J'aime les deux. Je suis particulièrement sensible à ce roman, Catherine, de Juliette Benzoni. Tout simplement parce que oui, c'est un livre qui m'a aidé à traverser des moments très, très difficiles de ma vie. Et c'est un livre que j'ai tellement aimé, que je continue d'aimer, que je continue de lire dans les moments où je suis un peu déprimée, où je me sens, voilà, pas très, très bien. Et donc, finalement, je pense que j'ai dû lire ce livre minimum une centaine de fois. Et finalement, je pense que j'en connais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Moyen-Âge. Et c'est une période qui me fascine. Et quand je viens en France, peu importe où, je cherche, je suis finalement sur la trace de Catherine de Montsalvi.
Ah oui. Alors, il y a un autre livre que vous aimez particulièrement. C'est le livre d'une écrivaine africaine qui s'appelle Maria Maba. Ce livre s'appelle Une si longue lettre. C'est un livre qui a été, je crois, traduit dans 30 langues. Est-ce que vous pouvez me parler de ce livre? De quoi ça parle?
Eh bien, Maria Maba, dans Une si longue lettre, raconte tout simplement notre vie. Nos vies de femmes qui finalement n'ont pas droit à la parole, qui subissent tout simplement le joug du patriarcat. Maria Maba parle de la polygamie et de sa place de femme et du poids des traditions, des pesanteurs socioculturelles. Et finalement, voilà, je peux aller jusqu'à dire qu'elle parle tout simplement du mounial, donc
de la patience.
De la patience. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Et c'est une autrice qui, malheureusement, n'a pas pu écrire beaucoup de livres parce qu'elle est décédée. Elle a juste deux romans. Et je peux dire que s'il y a une femme qui m'a vraiment inspirée, qui m'a donné envie d'écrire aussi, c'est Marie Amaba.
Alors je vous propose de l'écouter.
J'écris, j'aime écrire comme certains aiment peindre, comme certains aiment la musique. Vous savez qu'écrire est une aventure. Et je ne suis pas de ces personnes qui croient aveuglément en leur talent et qui se disent que voilà ce que je vais écrire, eh bien, sera bien jugé. Quand je vois un livre, quand je l'ouvre, que je le lis, j'y passe des heures entières. Je regarde chaque mot, chaque phrase. Même la place d'une virgule m'intéresse. C'est avec passion que je lis. Et chaque fois que j'imaginais qu'il y aura un lecteur qui aime lire comme moi, qui me lira comme je lis, alors j'ai longtemps hésité à écrire. Et je voudrais vraiment que ma voix soit la voix de toutes les femmes dont les voix ont été étranglées, toutes les voix, eh bien, soumises. Je voudrais que tout ce qui est eu éclate par ma voix. Je voudrais que les hommes entendent ce cri poussé par la femme et qu'il leur permette, eh bien, de céder, de faire beaucoup de concessions, d'oublier les privilèges hérités et d'établir des rapports normaux entre leurs femmes et eux.
C'était une archive RFI INA, donc c'était la voix de Maria Maba. Et en l'écoutant, j'ai l'impression que Djali Amadou Amal, on pourrait dire que vous êtes une de ses héritières.
Et je suis fière de l'être. Je pense que oui, j'avais pas suivi cet extrait, c'est la première fois. Et je suis très émue justement parce que c'est ce qu'elle nous demande. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que moi aussi j'espère léguer aux générations futures. Donc être dans cette continuité, être de ces femmes qui se battent pour que leur voix porte, pour que les choses changent. Jusqu'à présent, les choses n'ont pas encore changé. De Maria Maba, qui a écrit finalement cette si longue lettre avant ma naissance, jusqu'à ce que j'écrive Walandé, l'art de partager Marie, mon premier roman, jusqu'aux impatients, 10 ans plus tard, les choses n'ont pas encore changé. Mais nous travaillons pour que justement on continue à entendre notre voix et qu'on puisse surtout, surtout ne pas se taire.
Djali Amadou Amal, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes passée de la lecture à l'écriture? Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez pris votre stylo?
Je ne me souviens pas du premier jour où j'ai pris mon stylo pour écrire. Parce que là, je l'ai fait avant mon mariage, je l'ai fait spontanément. Je l'ai toujours fait depuis que je sais lire.
Vous écrivez?
J'ai toujours écrit des petits poèmes. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au collège, je faisais des petits livres que je lisserais pour mes meilleures amies, avec histoires, des petites histoires. Et elles aimaient tellement que finalement, j'étais devenue une fille très populaire dans mon collège. Tout le monde voulait avoir mes petits livres. Et évidemment, j'ai déchiré mes cahiers. Les enfants, ne faites surtout pas ça. Mais j'ai déchiré, moi, mes cahiers, je cousais, comme ça, je faisais des petits carnets. Et j'écrivais une histoire, j'inventais donc une belle petite histoire, j'illustrais cette histoire et j'offrais à mes amis. J'aimais beaucoup faire ça. Mais je me souviens parfaitement du premier jour où je passais de dépression en dépression, de crise de boulimie, de tentative de fugue. Soit je voulais me suicider, mais je pense que je ne suis pas assez courageuse finalement parce que j'ai pris plusieurs fois des comprimés, mais c'était trop amer. Donc, à l'autre époque, on se disait la meilleure façon de se suicider, c'était la quinine. Eh bien, je prenais des kinés, j'en avais une trentaine, une quarantaine. Mais au bout de trois, en fait, je me décourageais, c'était trop amer. Et puis, je laissais tomber, je préférais me rier sur la boîte de chocolat. Et, évidemment, je suis passée voilà, à mon mariage de 50 kilos à presque 100.
Ah oui.
En l'espace de quelques années. Et oui, parce que je pouvais terminer la boîte de Nutella.
Et donc, la première fois...
cette première fois, donc, c'était venu tout bête. J'aime beaucoup les agendas, sans savoir pourquoi. J'adore les agendas. Et ce jour-là, j'avais trouvé un agenda dans la maison, probablement un vieil agenda de ce monsieur qui traînait. J'ai pris cet agenda, je l'ai trouvé beau. Et puis je me suis dit... Je vais écrire comme d'habitude, mais je me suis surprise parce que j'ai commencé à raconter ma vie. J'ai commencé à écrire une autobiographie. Et je me suis sentie tellement bien après avoir écrit quelques pages que j'ai décidé de continuer. Et j'ai noirci des pages et des pages et des pages. Et je me suis sentie de plus en plus mieux. Et c'était un moment où... les ordinateurs venaient d'arriver aussi chez nous et où il y avait une formation qu'ils appelaient bureautique pour apprendre justement à utiliser les logiciels, le Office. Et je me suis inscrite à cette formation. Et quand j'ai appris à utiliser Word, la première des choses, c'est que j'ai ouvert donc une page et j'ai commencé à retranscrire tout ce que j'avais écrit sur mon agenda. Et j'avais trouvé tout de suite un titre, c'était « Efface enfin mes larmes ». Et quand je l'ai terminé, j'avais déjà la force et le courage de trouver mon père et de lui dire « C'est fini, je suis à bout, je quitte, que tu le veuilles ou pas ».
C'est-à-dire que c'est l'écriture qui vous a sauvé et qui vous a permis de partir.
Oui.
Et de répudier votre mari, parce que vous avez répudié votre mari, Jaïli Amadou Amal.
Oui, je suis allée le trouver et je lui ai dit ce que les hommes disent généralement aux femmes, mais cette fois-ci, moi, je suis la première. Je lui ai dit, écoute, je te répudie. Il m'a dit, mais tu es folle, ça ne se fait pas. C'est à un homme de répudier une femme. J'ai dit, mais moi, je vais commencer.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. Say, baby.
Tracy Chapman, c'est pour vous faire plaisir, ça encore, Jaylee Amadou Amal, parce que vous l'aimez aussi, c'est une grande féministe, vous le savez.
Oui, et ça me rappelle surtout voilà, cette période-là et cette musique que j'écoutais tout le temps et qui me faisait du bien.
Comme l'écriture. Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de l'écrivaine camerounaise Jaylee Amadou Amal, lauréate du prix Goncourt des lycées en 2020. Jaylee Amadou Amal, on ne va pas raconter en détail tout le chemin que vous avez parcouru pour vous émanciper. Vous avez donc divorcé, puis vous êtes tombée amoureuse d'un homme, d'un autre homme qui s'est avéré violent. Un homme d'ailleurs qui ressemble à un des personnages de votre livre Les Impatientes, un homme qui frappe, qui demande pardon et recommence à frapper. Et Jaylee Amadou Amal, vous avez compris que si vous ne bougiez pas, vos filles allaient vivre le même cauchemar que vous, alors vous vous êtes enfuie. À Yaoundé, dans la grande ville, seule. Vous n'aviez jamais travaillé, comment vous avez vécu?
Eh bien, c'était une expérience compliquée et difficile. Je n'avais jamais travaillé. J'ai commencé à travailler, j'ai trouvé du travail. Je n'avais jamais payé une facture, j'ai appris à payer une facture. J'ai jamais pris un taxi, j'ai appris à prendre le taxi. J'ai jamais vécu, je dirais, dans la précarité. J'ai appris à compter. Et oui, c'était un moment très difficile, mais c'était aussi des moments parmi les plus importants de ma vie, parce que j'ai fait des choses. Je suis allée à l'université. Je n'avais pas le temps pour m'inscrire, mais j'ai quand même pu prendre le temps de m'inscrire à des ateliers d'écriture à l'université de Yaoundé. Et je suis devenue l'une des plus grandes personne qui fréquentait l'Institut français, la médiathèque. Et je lisais, et je lisais, et j'écrivais, et j'ai rencontré des personnes qui écrivent. Et c'est là que j'ai rencontré aussi des amis. Pabé Mongo, par exemple, l'un des grands écrivains de chez nous, qui tenait cet atelier d'écriture avec cette nouvelle mouvance de ce qu'il appelait la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise. Et c'est lui qui m'a guidée. C'est lui qui a lu mon premier texte, « Efface enfin mes larmes », qui a voulu le publier. Et puis, de travail en travail, harcèlement sexuel et autres.
Oui, parce qu'une femme seule, comment voilà. Elle est perçue, une femme seule dans la grande ville?
J'avais mon frère qui était là, qui vivait avec moi, qui a été mon soutien. Mais évidemment, j'étais marginalisée par ma famille, par...
Au banc de la communauté?
Ma communauté, oui, puisque... Je refusais de me conformer. Je m'étais enfuie d'un mariage. J'ai été répudiée ensuite. Mes enfants ont été kidnappés. Je n'ai pas vu mes filles pendant 2 ans et demi. Mais je tenais pour elles. Je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Si j'étais restée là, dans ce mariage, mes filles auraient fini comme leur demi-sœur, c'est-à-dire mariées à 14 ans ou à 15 ans. Elles auraient tout simplement vécu une vie comme la mienne, ou pire que la mienne. Et donc, voilà. Il fallait que je devienne une voix. Il fallait que je me fasse entendre. Pour cela, à un moment de ma vie, j'ai vendu tout ce que j'avais, c'est-à-dire des bijoux en or, puisque c'était notre seule richesse en tant que femme peule, les bijoux qu'on nous donne pour nos mariages. J'ai tout vendu. Je me suis acheté un ordinateur, une table de bureau, une chaise. Je me suis assise et j'ai commencé à écrire ce qui deviendrait mon premier roman, c'est-à-dire Walandé, l'art de partager un mari.
Et alors, quand vous avez fini d'écrire ce premier roman, vous êtes retournée dans votre ville du nord du Cameroun pour présenter votre livre à votre communauté, à votre famille. Comment ça s'est passé, Jaylee Amadou Amal?
Eh bien, je suis rentrée et j'ai organisé une dédicace dans ma ville. C'était la première fois qu'une femme du nord Cameroun écrivait un roman. Et c'était la première fois qu'on organisait une dédicace dans ma ville. Je suis allée voir toutes les autorités. Je suis allée voir le gouverneur pour l'inviter à ma dédicace. Déjà, rien que de voir le nom, une femme du Nord, de Marois, qui écrit un roman, eh bien, il a été curieux. Il m'a demandé d'apporter le livre pour qu'il le lise. Il l'a lu. Il est venu à cette dédicace et il a dit, avant que je prenne la parole, si quelqu'un te menace, ou te dire moi de travers, j'en fais mon affaire. Et donc, oui, j'avais eu le soutien des autorités pour pouvoir m'exprimer, pour dire ce que ressentent les femmes quand elles vivent dans un foyer polygamique, quand elles subissent le mariage précoce et forcé. J'étais en train de dire tout haut ce que toutes nos femmes disent tout bas. J'étais en train de dire ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. Eh bien, la parole s'est libérée et tout a changé à partir de là.
Alors, moi, en vous lisant, Djaïli Amadou Amal, j'ai compris des choses. J'ai compris que les co-épouses étaient des ennemis et qu'on faisait tout pour que rester la préférée du mari et qu'au contraire, il n'y avait aucune solidarité entre les femmes. J'ai été très impressionnée par ça. Et j'ai été aussi très impressionnée parce que vous décrivez des hommes et de l'enfermement dans lequel se trouvent les hommes à prendre des cocktails d'alcool et de médicaments pour prouver leur puissance et leur virilité, parce que eux aussi, on leur demande, d'une certaine façon, la société leur demande d'être violent avec leurs femmes.
Exactement. En ce qui concerne la polygamie, eh bien, c'est toujours une décision unilatérale. C'est pour cela que les femmes n'acceptent pas. C'est pas vous qui demandez à votre époux de prendre une autre femme, c'est pas votre décision. C'est lui qui vous impose ça. Eh bien, une coépouse, c'est pas votre amie. Ce n'est pas votre sœur. C'est une femme qui vient prendre l'amour de votre mari. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ou plutôt le pire, c'est qu'elle vient prendre votre place en tant qu'épouse dans la société. Et ce n'est que cette place-là que vous avez pour exister. Pire encore, c'est une femme qui viendra mettre au monde des enfants qui partageront l'héritage de vos propres enfants. À ce moment-là, pour vos enfants, vous êtes prête à vous battre comme des lionnes. Évidemment, les hommes aussi subissent les pesanteurs socioculturelles. Un homme qui accompagne son épouse, qui est toujours avec elle, qui ne lui apporte pas de coépouse, évidemment, il est jugé aussi, on le traite comme s'il était moins que rien, etc. Et il faut être extrêmement fort pour accepter justement ces jugements et pour refuser de se conformer à ce qu'on attend de vous. Je pense que oui, on peut avoir l'impression que les hommes finalement sont mieux lotis, mais on se rend compte qu'eux aussi subissent des pesanteurs.
Djaïli Amadou Amal, vous êtes donc une écrivaine engagée, et c'est pour ça qu'au Cameroun, on vous a surnommé la voix des sans-voix. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur la plus lue au Cameroun, et vous recevez des femmes de partout, de toute l'Afrique, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, toutes ces femmes qui se reconnaissent dans vos romans. Et quand vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens, quand vous êtes retournée au pays, au Cameroun, on vous attendait avec cette chanson.
Une étoile filante à Paris, cette fois au Cameroun. Djaïli Amal au Cameroun, vous soutient. Une étoile filante à Paris, cette fois en Afrique. Djaïli Amadou Amal, les Africains vous soutiennent. Awindi Deftere Walande, l'art de partager un mari. Awindi Deftere Mystery Joe, la mangeuse dame. Awindi Deftere Walande.
Djaïli Amadou Amal, vous avez dansé sur cette musique en arrivant au Cameroun?
Bien sûr, c'est une musique, voilà, ça a été composé par un musicien qui s'appelle Bash. Et il est de Maroua aussi.
Du Nord?
Oui, du Nord Cameroun. Et oui, ça a été très émouvant parce que c'est une chanson en hommage à mon travail, à ce prix Goncourt des lycéens. Et finalement, le soutien de tout le pays, de toute l'Afrique. Et oui, nous avons beaucoup dansé sur cette chanson.
Mais vous êtes devenue une star.
Oui, ça prouve que on n'est pas obligé de passer par le foot ou la musique pour être une star. La littérature aussi fait des stars.
Alors justement, parlons de littérature. Certains ont critiqué votre écriture quand vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens, qu'ils ont qualifié de littérature ordinaire. et se sont étonnés que vous receviez ce prix. Et même une lettre ouverte a été adressée à Chantal Biya, à Léonora Miano et à Alain Mabankou qui vous avaient envoyé des félicitations. Une lettre ouverte pour souligner l'inopportunité de leur message de félicitations. Comment vous avez vécu cette polémique, Djaïli Amadou Amal?
Eh bien, comme ça se passe d'habitude, vous savez, il suffit, je suis une écrivaine camerounaise vivant sur le territoire africain et écrivant à partir de l'Afrique. Je n'ai pas écrit pour gagner des prix. C'est arrivé que je gagne. Ça me donne une voix encore plus forte pour dénoncer les choses. Je ne dirai pas à tout le monde d'aimer le livre. On est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Mais évidemment, je suis habituée aux critiques, je suis habituée aux polémiques. Et comme je le dis d'habitude, je ne gère pas les susceptibilités.
Alors, je vous propose d'écouter Alain Mabankou, qui vous a écrit pour vous féliciter, Djaïli Amadou Amal, quand vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens.
Quand on pense lire la littérature française en mettant de côté la littérature africaine, on ne regarde pas les deux visages de la médaille. On ne lit qu'une chose. Aujourd'hui, je pense que pour comprendre parfois la littérature française, il faut aller lire la littérature africaine. Parce que dans cette littérature africaine, il y a des conciliabules. Et dans ces conciliabules, le nom de l'Europe revient sans cesse. La France revient sans cesse. Les écrivains africains ont pris la plume en réaction par rapport à ce que les auteurs coloniaux, les auteurs des expéditions coloniales avaient écrit. Et de ce fait, si on ne lit que la littérature française en estimant que la littérature africaine n'est qu'une littérature du rez-de-chaussée, on se trompe parce que les écrivains africains ont lu à la lettre la littérature française. Avant de venir en France, nous savions qui était Marcel Proust, nous savions ce que Montesquieu avait dit, nous savions ce que Germinal disait. Donc il y a cette pédagogie à faire. La littérature africaine fait partie de l'imaginaire français et si nous ne la lisons pas, ça veut dire que nous nous promenons avec un seul œil, voire même avec une seule jambe.
Djaïli Amadou Amal, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles d'Alain Mabankou?
Eh bien, c'est d'autant plus vrai que nous nous sommes quand même tapés toutes les œuvres de Racine au collège.
Racine, Victor Hugo, que vous aimez d'ailleurs, je crois.
Oui, j'aime beaucoup Racine, oui, j'ai lu toutes ses œuvres.
Djaïli Amadou Amal, il y a quelques jours, vous avez reçu à Bordeaux le prix de l'Association internationale des maires francophones. Le 8 mars dernier, vous avez été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF au Cameroun. Votre voix porte maintenant. C'est gagné.
Oui, et cette voix-là, elle servira à continuer à faire un plaidoyer pour empêcher et faire cesser enfin ces mariages des enfants, pour que les femmes soient mieux respectées, pour qu'elles rentrent plus dans leurs droits, pour que les petites filles, en venant au monde, aient les mêmes droits que les petits garçons, etc. C'était une bataille que je menais déjà depuis 10 ans. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la possibilité de mener cette bataille encore plus loin, encore plus fort, et en espérant que, enfin, ça puisse vraiment faire évoluer les choses.
Alors, les choses ont déjà évolué pour vos filles qui n'ont pas été mariées de force et qui sont des étudiantes aujourd'hui.
Oui, j'ai deux filles adolescentes, enfin pas adolescentes, des jeunes femmes aujourd'hui, 19 ans, 20 ans. L'une en licence, droit privé, l'autre en communication. Je suis très très fière de ces jeunes femmes qu'elles sont devenues. Je suis fière qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles puissent avoir la force nécessaire de dire non et qu'elles puissent continuer leurs études et qu'elles puissent trouver leur place dans ce monde et qu'elles puissent se frayer leur propre chemin.
Telle fille, telle mère, telle fille.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
En 1993, Djaili Amadou Mamal, alors que l'on vous mariait de force, vous nous avez dit comme la littérature et la lecture vous avez aidé à tenir debout et à vous libérer, à vous émanciper de ce qui vous arrivait. Il y avait certainement la musique aussi qui jouait un rôle important dans votre vie. Et en 1993, Céline Dion chantait « The Power of Love ». Djaili Amadou Amal, vous adorez Céline Dion?
J'aime beaucoup Céline Dion. Ça fait partie justement de toute cette musique qu'on écoutait et qui fait du bien. À l'époque, on n'avait pas justement tout cet accès, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et tout ça. Et donc, on écoutait beaucoup de musique, on lisait beaucoup de livres, ce n'était pas plus mal.
Et à chaque fois, c'est parce que je me dis, quand on écoute Céline Dion, comme vous, toute jeune, 17 ans, mariée de force, ça fait rêver à d'autres amours, justement, d'autres amours possibles.
On se raccroche sur une image, sur un personnage, même si, je pense qu'à cette époque, même si les premières fiançailles n'ont pas eu plus d'impact que ça, on a quand même besoin de se raccrocher peut-être à cette idée de l'amour et d'avoir une image ou juste une personne qu'on peut aimer en secret, un peu comme Hélène et les garçons.
Ah oui, un peu comme Hélène et les garçons, j'aurais pas pensé. En 1993, Djaili Amadou Amal, on fêtait les 70 ans de la création de la Bibliothèque Verte.
Allez, on fait la course jusqu'à l'EHPAD.
Claude.
Oui.
Attends, jetons d'abord un coup d'œil sur le vieux puits.
Oui, mais bonne idée.
Attendez-moi.
Viens, Annie, donne-moi la main. Attention, Mick, ne te penche pas trop. Les marches de l'entrée des souterrains ne doivent pas être loin.
Elles sont ici. On a bloqué l'entrée des souterrains avec de grosses pierres.
Bloqué l'entrée des souterrains? En effet.
Mais quelqu'un est venu dans l'île? Mais qui?
C'était sûrement des campeurs. Regardez ici. On a allumé un feu. Il y a des cendres. Il y a même un mégot de cigarette, là.
C'est incroyable quand même.
On va voir l'épave?
Allez, on fait la course. Qui arrivera le premier à l'épave?
Djaili Amadou Amal, vous avez reconnu, c'était un feuilleton inspiré de quoi? Vous avez tout de suite reconnu, non?
Bien sûr, le Club des Cinq. Le Club des Cinq que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ça faisait partie aussi de mes livres préférés quand j'étais jeune. Et je les ai tous lus dans notre petite bibliothèque du collège, où j'ai fini en allant en quatrième à devenir l'assistante de la bibliothécaire parce que j'étais la seule élève du collège qui avait lu tous les livres.
Alors, il y a une tradition dans cette émission, Djaili Amadou Amal. À la fin de l'émission, on offre toujours à nos invités une petite archive, enfin une belle archive. Et pour vous, on a choisi un grand poète français qui parle d'amour.
Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire.
C'était le poème « L'amoureuse » de Paul Éluard, parce qu'en vérité, Djaili Amadou Amal, vous êtes une grande amoureuse, une grande romantique.
J'adore. Merci beaucoup. Oui, j'avoue. Je suis une grande romantique et Et je crois encore à l'amour fou, je crois. Mais c'est bien parce que après tous ces devoirs conjugaux, j'ai rencontré quand même l'amour. Ça fait 10 ans que je suis mariée et que j'ai à côté de moi non seulement quelqu'un qui me soutient, mais aussi quelqu'un qui m'encourage, qui est toujours là pour moi, qui essuie mes larmes. Et voilà, pour pouvoir écrire ce roman, Les Impatientes, ça a été quand même le test le plus difficile que j'ai eu à écrire, parce que quelque part, évidemment, même si c'est une fiction, ça me touche quand même énormément. C'est très difficile d'avoir à raconter les violences quand on les a subies. Et à un moment, un jour, je me rappelle, après avoir décrit le viol de Hindou dans le test, eh bien, je me suis effondrée sur mon ordinateur en sanglots. Et mon époux m'a dit une chose, c'est que si ça te met encore dans cet état, c'est que tu n'es peut-être pas prête à écrire sur ce thème-là, ce roman. Et j'ai dit non, je vais jusqu'au bout. Et donc, j'ai eu besoin de son soutien. Et il a été là et il continue d'être là, évidemment, parce que même après, avec le succès, ce n'est pas facile aussi.
Merci Djaïli Amadou Amal d'avoir passé cette heure avec nous. C'est déjà fini. Votre livre, donc Les Impatientes, est publié aux éditions Emmanuel Collat. Et je dois parler aussi de votre association dans laquelle vous êtes engagée, qui s'appelle Femmes du Sahel, un site www.femmesdusahel.org. Vous trouverez les coordonnées sur le site de l'émission. Je dois remercier aussi la documentation de RFI qui nous a permis d'écouter entre autres Maria Mamba. Voilà, c'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui, c'était Benjamin Vignal. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.